sur Thermostat 2.1, c'est Léa et je suis avec vous sur Radio Alpha jusqu'à 16h, tout comme la belle équipe. Salut Tony.
Salut.
Team col roulé aujourd'hui.
Ouais, parce que bon, il fait un peu frisqué à Paris. Et surtout énormément de vent, je sens de vous regarder les arbres
c'est
dehors
vrai,
là qui bougent.
C'est vrai.
Beaucoup trop à mon goût.
Et toi Julie, comment tu vas?
Bon tard, bah moi ça va, écoutez, j'étais malade cette semaine, mais là je vais mieux.
T'es
sinon je serais pas venue, hein. J'allais pas vous contaminer là.
Et on a Edouard aussi qui a opté pour le col roulé ce samedi.
C'est ça, un mini col roulé, hein, pas comme Tony.
Ouais, il est timide son col roulé.
Ouais, il est timide, timide.
Mais lui là-haut, il a pas aussi froid que nous.
Ouais, mais en régie.
Non, je suis bien.
Je pense pas, t'es bien. Merci en tout cas d'être avec nous. Au programme, un blind test de l'actualité, de la culture et une interview ce samedi. À nos côtés, Jouan Gonsarge, avocat spécialisé en droit du sport et cofondateur du cabinet BGSL. Bonjour Jouan.
Bonjour Léa, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pendant l'interview, on va découvrir ton rôle en tant qu'avocat spécialiste en droit du sport, les règles à respecter lors des compétitions sportives, les sanctions aussi quand on ne les respecte pas. Et généralement, Jouan, quel est le profil de tes clients?
Bah écoute, on a des profils très très divers. Ça peut passer du joueur de foot, du sportif en général, aux associations, beaucoup de profils différents dans nos clients.
Et avant de se spécialiser justement dans cette branche-là, il faut être un fan de sport ou pratiquer le sport.
Oui, on peut. Alors écoute, c'est beaucoup plus facile lorsque on est fan de sport. Mais ce qu'il faut surtout, je pense, pour être un bon avocat en général et un bon avocat en droit du sport, c'est être surtout fan de droit, parce qu'effectivement, ça tourne essentiellement autour du droit. Mais effectivement, bien aimer l'écosystème, bien aimer le sport et le comprendre, avoir une certaine sensibilité. C'est effectivement plus facile pour mieux être dans ce milieu.
Et si t'aimes ça, ça tombe bien, puisque dans le prochain quart d'heure, Tony fera le point sur l'actualité sportive de la semaine. Mais avant, on a un blind test avec Edouard. Et je vous mets au défi de trouver les extraits. Mais avant, bon, le temps de se préparer, de vous laisser le temps aussi de chez vous ou dans votre voiture. On va écouter Seven de Jungkook et Lato. Et on se retrouve juste après sur Radio Alpha.
Every hour, every minute, every second, for the night of the night, I'll be loving you for 7 days a week.
Blind Test sur Radio Alpha. N'hésitez pas à jouer avec nous. Vous pouvez nous envoyer un message sur WhatsApp au 06 62 10 98 60. Alors, Edouard, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui ?
Alors, cette semaine, j'ai choisi des musiques un peu spéciales. Je pense que le niveau va être un peu relevé, mais j'ai confiance en vous. Je pense que vous allez trouver.
Ok, bon, on a hâte de voir. J'espère que ça va aller pour le premier extrait au moins.
Le premier extrait, je pense que vous allez au moins avoir l'artiste.
Ok.
On commence. Curly, I like she said, what you know about her? I'll tell you everything, I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it, you get what you please. We about to get it on.
C'est Pop Smoke.
Oui.
Est-ce et que c'est you get, non, what you love.
What you know about love.
Ah,
c'est ça, enfin. Exactement.
Il l'a dit dans les paroles.
Mais c'est pas juste, je connais les paroles par cœur, je connais pas le titre.
Je vous ai encore peu parlé de rap américain dans cette émission.
Ouais, pas assez, je suis bien d'accord.
Ouais, mais it's difficile time. de pas commencer par la légende Pop Smoke, de son vrai nom Bashar Barak Jackson, mort assassiné, comme vous le savez, le 19 février 2020. Et pour la petite anecdote, la musique est un peu arrivée par hasard pour lui, car après avoir visité les studios de musique de son ami rappeur, il a décidé de faire quelques tests avec des instrumentales trouvées sur YouTube. Et la suite, je vous la raconte pas, c'est un carton planétaire. Voilà pour Pop Smoke. On enchaîne avec le deuxième extrait.
Anaïs Montel.
Oui.
Qu'est-ce qui me semblait ça?
Tu connais pas Tony?
Oui,
Tony. Ça te dit rien?
Si, si.
Ah, moi, je connais pas.
Je t'ai vu faire une
tête. J'avoue, je connais pas.
On découvre des artistes, moi. C'est bien.
Exactement.
Moi, je suis plus rap.
Elle est très présente sur TikTok avec ses vidéos, mais Anaïs chante aussi, notamment avec ce dernier son sorti le mois dernier. Donc, on envoie de la force à Anaïs Montero. Le clip est dispo sur YouTube.
Julie est plus rap. Joan, qu'est-ce que t'écoutes au quotidien, dans la voiture?
Moi, j'écoute les radios un peu d'info, mais si pour ce qui touche à la musique, je suis très éclectique. Je peux effectivement passer de la musique classique au rap, à la pop, un peu de musique portugaise aussi. Ouais. Voilà, je suis assez éclectique en termes de musique.
Musique portugaise.
Oui.
Quel type de musique portugaise?
Alors, tu as peut-être cru me piéger en me posant cette question-là, mais non, j'écoute de la musique portugaise. Santos Hipocadores. Par exemple, Pedro Brunhoz, c'est un peu ancien peut-être pour vous, non. Mais non, c'est encore en actualité.
Oui, non, mais bien sûr.
On a des grands connaisseurs dans cette émission.
Mais ouais.
Alors, Paulo Gomes aussi.
Ouais, bien sûr.
On en a parlé la semaine dernière.
On en a parlé,
c'est
exactement.
C'est vrai.
Voilà, pour vous dire que voilà, en termes de musique, j'ai un panel assez large.
Un peu comme nous, on écoute de tout, j'ai l'impression.
Ouais, c'est vrai.
Je suis assez d'accord.
Bah vas-y, montre-nous.
On va voir si vous avez trouvé le troisième extrait. C'est parti.
Moi, je saurais pas dire la musique.
Moi non plus.
Mais je sais de quelle série ça vient.
Nous non plus, genre, on sait pas où dire.
Suits, mais on l'a connu. Suits, incroyable cette série.
Alors la musique,
je me suis vu tellement de fois avocat quand dans cette série.
Mais même moi, mais oh là là, je voulais être avocate juste pour ça.
Juste avant de parler de la série,
c'est vrai.
Pas rigoler parce que c'est juste pour la
musique, si c'est un clin d'œil, c'est cool.
Non,
c'est
pas ça. Pour la musique, pour la série.
Pour la série.
Attention.
Donc la musique nous vient du groupe Emma Robot, un groupe pop américain. Donc la musique s'appelle Green Book Boogie. Et effectivement, c'est une musique de la série Netflix Suits, si je prononce bien.
Suits, c'est pas grave.
Donc c'est un petit clin d'œil par rapport à notre invité. Je sais pas si t'as regardé la série.
J'ai regardé le début. Après, j'avoue, j'ai un peu lâché. Mais effectivement, j'ai regardé le début.
Il faut tout regarder.
Je sais plus à quelle saison ou à quel épisode j'ai dû m'arrêter.
Ah, c'est exceptionnel.
C'est incroyable.
C'est la série du siècle.
C'est des meilleures séries.
En termes de droit pur, je suis pas sûr que ça ressemble vraiment à la réalité.
C'est du droit américain, donc c'est pas pareil.
En plus.
Mais c'est vrai.
Tu as raison.
Je me suis tellement vu de fois avocat encore dans la série.
Mais je trouve que dans les séries d'avocats, c'est une des meilleures.
D'accord.
Parce que j'en ai regardé pas mal. Voir, et alors. C'est une demi-heure.
Je voulais demander justement à notre invité, est-ce que c'est une série réaliste selon ce qu'il a vu?
Alors, je suis pas spécialiste.
Il faut pas spoiler.
Oui, non, mais bien sûr.
Je suis pas spécialiste du droit anglo-saxon et américain, mais dans la plupart des séries, même les séries françaises qui tournent autour des avocats, il y a beaucoup d'éléments un peu cinématographiques ou un peu d'excès, ouais. Ce qui est normal. C'est-à-dire que si tu vois la vie, alors je ne dis pas que j'ai une vie triste, mais la vie d'avocat est malheureusement pas aussi musclée, pas aussi dynamique, pas aussi rapide que Suits. Il n'y a pas autant de bouleversements, ouais, de rebondissements, etc.
Puis, accessoirement, tu ne rentres pas dans un grand cabinet d'avocat juste comme ça.
Voilà.
Bon, non, c'est le premier épisode, je spoil rien.
Ok, bon, on prend note en tout cas pour cette série. Et
mais on recommande.
Oui. On recommande, bien sûr. On enchaîne avec le quatrième extrait.
Jorginho. C'est DJ Taylor?
Pas non. Du tout, ce n'est pas Jorginho.
DJ Tellio.
C'est DJ Tellio.
Il l'a dit avec une conviction.
Ah non, c'est vrai.
Moi, j'étais plus convaincue.
Et le titre s'appelle Bon Appétit. Donc, c'est un artiste aux origines capverdienne et angolaise. Donc, il a un peu voyagé.
Ah, mais c'est la musique que tu as choisie dans la story musicale.
Sûrement.
Il n'y a pas très longtemps.
Sûrement.
Tu aurais dû mieux suivre.
Donc, en 2015, c'est donc avec un titre qui s'appelle Que Sa Foda, métissage d'Afro House et de Kuduro Kizomba qui séduit le grand public. Et aujourd'hui, c'est pas mal de milliers, de millions d'écoutes chaque semaine. Voilà pour le quatrième extrait. On enchaîne avec l'avant-dernier extrait.
Là, je crois que tu nous as perdu.
Vous avez même pas l'artiste ?
C'est quoi ce jugement ?
Ça commence par quelle lettre ?
C'est tac.
Et, mais bah, voilà,
ah ouais.
Elle l'a dit un peu avec quoi, avec condescendance, mais effectivement c'est bien Taïk.
Ça se prononce pas Taïki d'ailleurs.
Alors, justement, il y a une histoire autour de ça. On dit Taïk, mais les filles peuvent l'appeler Taïki.
Ah, c'est que les filles.
C'est bien entendu dans une interview.
Que les filles, sympa.
Moi j'ai toujours dit Taïk, mais bref.
Il a sorti ce son cette semaine qui s'appelle Lova. Donc il y a pas mal de musique, enfin de vidéos sur TikTok qui tournent en ce moment avec des chorégraphies. Tony, tu pourras aller sur YouTube et reproduire la chorégraphie si tu veux.
Le clip. Je vais essayer.
Je veux voir ça.
On veut une
tu
vidéo de Tony.
On va mettre un petit reel sur Instagram.
Ouais, on mettra sur Instagram un petit.
Non, je donne pas mon autorisation.
Attention, parce que la dernière fois qu'on a dit ce genre de choses, Loïc, il a attendu de pied ferme. Loïc de Portugal.
Il attend encore.
On va attendre. On va attendre. Dernier extrait. On enchaîne.
Léa, c'est pour toi, je crois.
Avemos de la Viana. Et Jean-Roux, tu pourras confirmer, puisque tu viens de là-bas aussi.
Exactement, je viens de là-bas aussi.
Le Nord est bien représenté.
C'est l'artiste
Amélia Rodriguez. Ah,
c'est ce que j'allais dire, j'avais un doute, mais ça me rassure.
Surnommée la reine du fado, quand même. Donc,
ça va quand même. Hein.
C'est la chanteuse qui a popularisé un peu le genre fado avec 170 disques au cours de sa vie.
C'est phénoménal.
Elle a majoritairement chanté dans sa langue maternelle en portugais, mais aussi en espagnol, italien, anglais et français. D'où le titre de son morceau Aïe mourir pour toi.
L'italien, je savais pas.
Moi non plus. Le français, je savais, mais pas l'italien.
Elle a fait les plus grandes salles en Europe, dont l'Olympia, notamment à Paris.
Je ne vous cache pas que ça me donne un coup de vue, parce que c'est la seule musique que j'ai reconnue.
Super.
J'en ai pas reconnu beaucoup plus. Hein.
Oui, c'est vrai.
En plus, je te rassure, c'est vrai que les bons.
Ouais, Edouard, il va falloir se calmer là.
On verra la semaine prochaine.
J'ai reconnu le titre et j'ai même pas été de la musique. Donc bon.
Après, tant qu'on a Amalia, c'est essentiel.
C'est bon,
exactement.
Oui, c'est un classique.
On a bien terminé.
C'est un classique à voir. Et on se quitte avec Anaïs Monteiro, Dame Valor. On se retrouve juste après avec Tony pour l'actualité sportive du moment. On va avoir des nouvelles sur le Brésil. Donc restez bien avec nous sur Radio Alpha.
C'était pas prévu. Si l'homme de ma vie, c'est toi. C'était pas voulu. Mais laisse-moi t'expliquer. Tout commença quand Bob dit un tempo. Désolé, si pour toi quelqu'un crie un sentiment. Mais il faut et continue. T'as fait la quelle bouge dans le temps. Parce que t'as d'un valeur qui t'a mérité. Mais ce qui est pas fait bien faire de mal. Si pédé au carré ni pour qu'à temps. Et soudain, va m'y masse valeur.
sportive. Tony, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
Bah, vu qu'on va parler beaucoup de sport dans la deuxième heure de l'émission avec l'interview, aujourd'hui on l'a fait court. Et on parle déjà du Portugal, parce que je vous l'avais dit la semaine dernière, les Portugais sont assurés de participer à l'Euro 2024 en fin de saison. Ça, c'est fait, c'est acté. Mais Soissons est bien décidé à maintenir les standards. Le Portugal s'est largement imposé contre la Bosnie-Herzégovine, 5-0. Encore deux buts pour Cristiano Ronaldo, mine de rien, il se rapproche du fameux défi des 1000 buts dont on avait parlé, Léa. Ça se rapproche de plus en plus.
Bon courage à lui, d'ailleurs. Ça se rapproche.
Il en est encore loin, qu'il atteigne les 900, mais les 1000, petit à petit, on va y arriver. Et son fils, d'ailleurs, Cristiano Junior, qui l'a rejoint à Al-Nassr. Voilà, ouais. Il a signé son contrat. Il va rejoindre son père, il va intégrer l'académie saoudite.
J'ai vu ça, c'est pas vraiment une surprise, donc j'y attendais un petit peu.
Bon, il a suivi un peu partout, il a suivi au Real, il a suivi à Manchester, ouais. À la Juve. Bah, maintenant, il le suit à Al-Nassr, là où les installations de formation sont ultra développées, donc il va pouvoir faire sa formation. Il va intégrer les U15, lui qui a 13 ans. Donc voilà, il développera sa formation. Des nouvelles sur le Brésil aussi maintenant. Les lusophones d'Amérique du Sud disputaient les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. La sélection Uriverde s'incline 2-0 contre l'Uruguay, mais surtout, elle a perdu Neymar. Le célèbre numéro 10 a été victime d'une terrible blessure au genou et souffre d'une rupture des ligaments croisés. Il sera opéré dans les prochains jours. Lui, qui avait déjà été opéré il y a 4 mois à la cheville, donc il rechute. Enfin, c'est pas vraiment une rechute, il se reblesse. Dramatique. Et des mauvaises nouvelles aussi pour Michael Motta, notre ancien invité, qui a annoncé, Léa, sa retraite sportive. Il a disputé sa dernière course automobile cette semaine et on lui souhaite bon vent.
Merci Tony pour ces infos. On se retrouve juste après pour l'actualité. L'actualité, mais j'étais chercher de l'actu qui remonte un petit peu. J'ai été chercher des procès assez marrants. Voilà. Des histoires marrantes.
Super.
C'est le retour des infos insolites. Alors restez bien avec nous sur Radio Alpha. On va écouter Lisandro Cucci, Tikida, et on se retrouve dans moins de 5 minutes.
Baby, oh, tô ansioso pra te ver agora na minha cama, oh, eu e tu no edredom já sabes que e imagino nós dois que acordar nós dois se a cama vai se arrumar nós dois e ainda estás pra fazer o quê? E imagino nós dois como é que falar nós dois se a cama vai se arrumar nós dois e ainda estás pra fazer o quê? São seis e meia agora mas já demos duas, três com cara bem malandra pede só mais uma vez. Eu fico doido quando olho para ti na tua cama desarrumada, baby. Maratona que és o drive da minha voz. Um café, pequeno almoço e os dois a sós. Para dizer o quanto eu te quero. Posso estar tocado, mas estou mais sincero. Oh, estou ansioso para te ver agora na minha cama. Eu e tu no edredom já sabes que. E imagino nós dois como é que vamos acordar nós dois. Se a cama vai se arrumar nós dois. Ainda estás para fazer o quê? E imagino nós dois. Como é que vamos acordar nós dois? Se a cama vai se arrumar nós dois. Ainda estás para fazer o quê? Ainda estás para fazer o quê? Imagina como é que a minha vida fica tu quando tens essa raba e se rock. Já agora ainda bem que não tens damos. Sai da casa da tua mama, vem, vem, ok, vem. Oh, imagina nosso clima sem piscina. Vem, vem, ok, vem. Oh, imagina nosso clima com tequila. Oh, 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 oh. Tô ansioso pra te ver agora na minha cama. Tu não é tratão, já sabes que. E imagino nós dois. Como é que vamos acordar nós dois? Se a cama vai se arrumar nós dois. Ainda estás para fazer o quê? E imagino nós dois. Como é que vamos acordar nós dois? Se a cama vai se arrumar nós dois. Ainda estás para fazer o quê? Okay.
Cette semaine, dans mon échange, on fait un tour des actualités insolites, notamment celles qui ont concerné des avocats. La première histoire s'est déroulée au Kenya. On en a entendu parler cette semaine dans l'actualité. Brian Wenda, est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Brian
Franchement, non.
Pas du tout.
Eh bien,
j'ai vu passer quelque chose, mais je ne sais pas si c'est par rapport à ça, donc je ne vais
peut-être.
Pas me prononcer pour
moi,
l'instant.
Oui, j'ai suivi un peu l'actualité.
Et est-ce une histoire de 20 ans ou pas ?
Est-ce que... Non, c'est une histoire récente, c'est tombé cette semaine. Alors, ça s'est déroulé au Kenya. Brian Wenda a usurpé l'identité d'un avocat et a remporté l'intégralité de ses procès. Alors, il s'est fait passer pour un faux avocat, il n'a aucun diplôme, il n'est censé avoir aucune compétence, et le jeune a pourtant remporté 6 procès sur 26. Ce qui est quand même incroyable.
Ça me rappelle Suits.
Exactement.
Voilà, t'en parlais juste avant. Sauf que là, c'est une vraie histoire pour le coup.
Voilà.
Il a fini donc par être démasqué par le vrai Brian Wenda. Il devrait prochainement donc avoir un procès. Et peut-être.
Il devrait gagner d'ailleurs.
Peut-être que ce procès.
Si c'est lui qui se défend.
Effectivement, sa 27e victoire pour ce faux avocat. Ça sent bien.
C'est fou ça.
Est-ce que je peux poser une question un peu touchy ?
Vas-y.
Est-ce que ça remettrait pas en cause les diplômes ? Nécessaire pour être avocat.
Non, écoute, absolument pas touchy. Je pense que les diplômes sont, c'est un peu comme le permis de conduire. C'est-à-dire que si effectivement tu veux exercer un métier, une fonction, etc., il te faut un minimum de diplômes. Et ensuite, c'est toi qui vas créer ta propre histoire, en te perfectionnant, avec ta passion, etc. Mais les diplômes, ça reste quand même une base nécessaire et une sorte de permis de conduire pour exercer une fonction un peu délicate que peut être celle d'avocat. Et effectivement, Léa en a parlé. En France, on parle d'exercice illégal de la profession d'avocat parce que c'est une profession qui est réglementée et on a besoin effectivement de passer des diplômes, etc.
Voilà,
très bonne réponse, franchement.
Est-ce qu'on peut pas dire simplement que le mec est un génie ? Plutôt que de décrier la profession, c'est un génie.
Peut-être.
Moi, je pense que maintenant, s'il va au procès et qu'il aura un petit casier, je suis pas sûr qu'il puisse l'exercer.
Non, c'est vrai. Prochaine histoire, ça s'est déroulé en Grande-Bretagne, mais il y a plus de 10 ans. Un homme a porté plainte contre sa voisine pour avoir assassiné ses 3 poissons rouges.
Hein ?
Quoi ?
Et oui. Un homme a porté plainte contre sa voisine. La police est donc venue fouiller l'appartement, chercher des preuves. Alors, ils ont retrouvé les empreintes de la jeune femme sur l'aquarium et une bouteille d'eau de Javel qu'elle avait donc renversée. Donc bon, le monsieur a porté plainte, mais la police a déclaré ne pas avoir testé l'eau car cela coûtait trop cher.
Est-ce qu'il y a eu un médecin légiste pour les poissons ?
Alors non. Non.
Un vétérinaire légiste.
Une autopsie.
Mais ce procès-là pour le meurtre de 3 poissons rouges d'une valeur de 8 euros aura pourtant...
Présumé meurtre.
Pourtant coûté 2200 euros aux contribuables.
Des
poissons rouges. T'as déjà entendu cette histoire?
Non, j'ai pas entendu. En plus, on peut presque la considérer comme une tueuse en série parce qu'elle a tué 3 poissons rouges.
Ouais, c'est vrai.
Oui, ouais, quand même. Prochaine histoire.
Ça se voit qu'il est avocat.
La prochaine, elle est assez marrante. Si vous glissez sur une feuille de salade dans un supermarché, vous pouvez toucher une belle somme. Ça s'est déroulé en France.
Et si c'est une banane, une peau de banane comme dans Mario, ça marche aussi ?
Peut-être aussi, mais pour ce cas-là, c'était une feuille de salade. L'histoire s'est déroulée en 2006 à Montpellier. Une femme âgée de 76 ans a glissé sur une feuille de salade dans le rayon d'un supermarché.
Bah, ouais,
que s'est-il passé ?
Bah, elle a porté plainte. Elle a gagné son procès.
Mmh. Alors, c'est vrai que c'est dangereux quand même.
Avant de porter plainte, c'est dangereux parce qu'elle s'est cassée le col. Elle a porté plainte contre l'enseigne pour négligence et le tribunal de Montpellier a déclaré l'enseigne coupable et la société a été contrainte à verser 20 000 euros d'indemnité.
Bah, en vrai, oui, ils sont coupables.
Bah, ça dépend. Hein.
Bah, si.
Ça dépend. Et si c'est un autre client qui a acheté la feuille par
terre. Et alors c'est au magasin de. Voilà, c'est au magasin de.
Si c'est 5 secondes avant, tu sais pas.
Le client est roi.
Bon, ne faites pas ça en tout cas. Voilà.
Mais j'avais vu aux États-Unis,
les feuilles de salade.
Ils ont une tendance à engager la justice pour n'importe quelle raison, des procès pour tout et rien. Et souvent, ils gagnent et ils gagnent beaucoup, beaucoup.
C'est vrai. Mais en France aussi, il y en a un peu. Hein.
Oui,
moi, en cours de droit, on nous en raconte aussi des anecdotes parfois, c'est marrant.
Oui, il y en a de plus en plus, mais on n'est pas encore à la hauteur des Américains et des États-Unis. En France, par exemple, sur les parce que là tu parles des 20 000 euros, c'est des dommages d'intérêt. J'imagine, je connais pas cette affaire, mais c'est des dommages d'intérêt. Donc c'est une somme qui vise exclusivement à réparer un préjudice. En l'occurrence, à mon avis, ça devait être le col du fémur. Aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Il y a des dommages et intérêts punitifs. C'est-à-dire que les dommages et intérêts viennent punir, alors, par exemple, une négligence ou un défaut d'entretien ou alors enfin, toute une série de choses. Et je ne sais plus...
Edouard
parlait effectivement de ce qui a pu se passer et d'affaires qui ont pu se passer aux États-Unis. Il y a une affaire très célèbre qui est celle du café au McDo.
Ah oui, c'est celle-là que j'avais en tête aussi.
Il y a exactement, c'est une affaire un petit peu symbolique, mais qui montre bien effectivement la différence entre les États-Unis et la France. Une dame était, je crois, de mémoire, était au drive, on lui a renversé un café qui était beaucoup
trop
chaud.
Non, moi, c'est pas ce qu'on m'a... C'est pas l'histoire que j'ai.
Et elle a demandé, et elle a surtout obtenu plusieurs millions de dollars. Donc on est loin des 20 000 euros.
Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'en plus, c'est parce qu'elle l'avait mis entre ses cuisses à elle, et que c'est elle, du coup, qui a conduit avec son café, donc en fait c'est elle qui se l'est renversée dessus.
Le café était trop chaud.
Exactement. Et alors c'est exactement ça. C'est-à-dire que
c'est la chaleur qui est reprochée.
Exactement.
C'est ça. Et c'est pour ça que maintenant les cafés au McDo sont moins chauds.
Exactement. On reprochait ça au McDo parce que c'était beaucoup trop chaud. Voilà. Et ils auraient dû anticiper et effectivement prévoir, enfin moins chauffer leur café pour éviter tout risque d'accident.
C'est fou quand même cette histoire. Mais celle-là on me l'a racontée en cours de droit. Celle-là, je l'avais.
Et j'ai une autre histoire assez folle, j'espère que vous la connaissez pas. Un ancien dégustateur de boissons alcoolisées au Brésil, de Bahia, a poursuivi l'entreprise où il travaillait, affirmant que son travail l'obligeait à boire une vingtaine de bières par jour.
Waouh.
Wow.
Pourtant, c'est son métier.
Sacré
histoire. Je me demandais comment ça se passe dans ce genre de situation.
Bah ouais.
Parce que finalement, c'est son métier de boire, d'être testeur. C'est assez touchy aussi.
Ah, tu me regardes, tu veux aussi
Après,
sur ça. Oui, non. Après, moi, je pense que toute demande peut être exercée à partir du moment où elle repose sur tout de même une certaine objectivité. Après, alors, c'est pareil, je positionne très, très ferme sur le sujet parce que je connais ni les tenants ni les aboutissants de ce dossier. J'ai pas lu le contrat de travail du monsieur ni
oui,
rien.
C'est ça, bien sûr.
C'est toujours un peu difficile. Mais pour avoir une vision un peu générale et globale sur ce point, si effectivement l'employeur demandait à son salarié de faire un certain nombre de tests ou de démonstrations, etc., celui-ci était, alors peut-être pas dans l'obligation, mais en tout cas était censé participer à ces tests-là. Est-ce qu'au bout d'un an ou deux ans, il n'a pas été un peu addict à l'alcool? Est-ce qu'il peut reprocher ça à son employeur? J'ai pas la réponse. En tout cas, est-ce qu'on peut poser la question? Bien sûr qu'on peut poser la question. Et c'est aussi toute la, entre guillemets, toute la magie du droit et de la justice. C'est qu'on peut poser des questions et après, on voit la réponse que peut donner un juge aux questions qu'on se pose à partir du moment où, tout de même, ça repose sur une base solide et un certain nombre d'arguments objectifs et pas tirés d'un chapeau de magicien.
Et dans ce cas-là, ce monsieur-là est devenu alcoolique. Donc c'est pour ça qu'il a poursuivi son entreprise. Et le tribunal a condamné l'entreprise à payer 100 000 riyals, donc au Brésil, pour ne pas avoir surveillé la consommation d'alcool de son employé. Voilà.
C'est pour ça que maintenant les sommeliers crachent dans tout ce qu'ils boivent en termes de vin. Ils ont des crachoirs pour ne pas boire tout ce qu'ils ont à goûter.
C'est pour ça.
Durant leur journée de travail.
Tu penses que c'est juste à cause de ce procès-là?
Peut-être pas celui-là, mais peut-être ce qui les pousse à le faire.
En tout cas, pour le vin, c'est le cas.
Et dernière histoire. Après 66 jours d'audience, un grand procès a dû être arrêté à Sydney à cause des jurés.
C'est possible.
Pourquoi, Tony, je vois que...
Je me dis que si à partir du moment où il y a des jurés, il peut y avoir tellement de raisons possibles. Il peut y avoir un jury qui fait un malaise. Enfin, il peut y avoir un jury qui est... c'est quoi le terme? Qui a été acheté.
Proche de l'accusé, peut-être aussi.
Et bien là,
qui a menti,
plusieurs jurés ont été surpris en train de jouer au sudoku pendant les débats. C'est quand même assez fou. Alors que deux hommes étaient en train d'être jugés pour trafic de drogue. Donc le juge a remarqué que les jurés prenaient des notes horizontalement, verticalement. Et puis il est parti vérifier ce qu'ils faisaient. Bon, il arrive sur place. Les deux jurés sont en train de faire des sudoku. Voilà, c'est quand même assez fou.
C'est eux qui décident notre avenir.
Ouais, c'est ça.
Ce qui s'est passé, c'est que le juge a annulé le procès et l'a repris depuis le début. Et rebelote.
T'imagines si ton prof, il doit faire des sudoku et qu'il reprend le cours depuis le début pour tout le monde?
J'espère que tu fais pas de sudoku au travail, quand même.
Non, je fais pas de sudoku au travail, mais cette décision-là, elle est intéressante et elle est très juste parce qu'effectivement, lorsqu'on est juré, donc sûrement sur un procès criminel, donc et sur une durée très longue, donc qui impliquait soit un nombre de faits importants, soit des accusés nombreux, les jurés doivent être très concentrés, ils doivent écouter voilà, tout ce que dit l'accusé, tout ce que disent les experts. Et effectivement, c'est la moindre des choses d'être archi concentré sur ce qui se passe au cours d'un procès lorsqu'on est tiré au sort et juré.
Et ça ne doit pas être simple, n'empêche, comme tâche.
D'être juré ?
Ouais.
Non, c'est très compliqué. Après, tu sais, ils sont accompagnés par, en l'occurrence, le président de la cour d'assises lorsqu'il s'agit de crimes. Donc, ils sont accompagnés, on leur explique, etc. Donc, voilà, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Ils sont vraiment accompagnés par le président. Et après, il y a le procureur, l'avocat général, qui, lui, fait des réquisitions. Donc, il explique pourquoi il veut que le condamné. Ensuite, il y a la partie civile qui, elle, dans l'ordre inverse, c'est la partie civile qui commence, après l'avocat général, et ensuite l'avocat en défense. Et tous ont un peu en introduction de leur plaidoirie un travail un peu de pédagogie, c'est-à-dire voilà, ils expliquent un peu leur fonction, pourquoi ils interviennent, voilà, il y a une partie un peu pédagogique pour justement ne pas perdre les jurés qui sont monsieur et madame tout le monde pour la plupart des gens, donc des boulangers, des maçons, des femmes de ménage, et il peut y avoir des policiers, mais en l'occurrence lorsqu'il y a des policiers ou des avocats, les parties ont tendance à demander à ce qu'ils ne siègent pas dans les jurés. Donc voilà, il y a toujours un travail pédagogique qui soit fait par le président ou par les parties, l'avocat général, partie civile et avocat de la défense.
Pour comprendre juste le poids des jurys, un très bon film qui s'appelle 12 hommes en colère, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est juste très exceptionnel bon film. Comme film. Oui. On comprend un peu comment l'acheminement des jurys.
Merci
pour la réflexion.
Cette
excellente référence. Excellente référence. Il y a souvent des débats, des films débats autour de ce film-là, et effectivement, très très bonne référence.
En tout cas, une chose est sûre, ne jouez pas au sudoku si vous êtes juré. Merci pour cet échange-là. On se retrouve dans quelques instants avec toi, Julie. Retour dans les littératures. On fait un point sur une autrice. Pour découvrir qui c'est, restez bien avec nous. On va écouter cette fois-ci, et pour de bon, Lisandro Cucci, Tikida. A tout de suite sur Radio Alpha.
Bella musica, o portal da Zambésia.
Ce que je vis, c'est pas jojo, joli. Je me mens à moi-même, j'ai l'impression que ma femme à lui. Merde, je peux plus te mentir, non. J'arrive même plus à dodo. Tu m'appelles, tu dis son nom. Oh, je deviens loco.
Thank you.
postal da Zambésia.
C'est l'heure de la rubrique de Julie et aujourd'hui tu nous proposes de découvrir en portugais l'autrice Altina Ribeiro.
Exatamente, esta semana continuamos com a literatura, desculpa, não tem nada a ver com direitos, mas pronto, eu prefiro literatura. Desta vez quero apresentar-lhes uma autora portuguesa cujos livros existem em francês e em português. Mas conhecem Altina Ribeiro? Já ouviram falar dela ou dos livros dela? Não?
Não, por acaso.
Eduardo?
Não.
Não?
Não, também não, mas sabes, a literatura é uma matéria muito próxima do direito. Uma
pois
pessoa
é.
Tem que ler muito, tem que ter uma cultura
é
bastante larga para ter elementos sobre muitas coisas e são duas matérias que são bastante próximas.
É verdade, e eu vou dar-te ideia de livros para ler, então.
Com muito prazer.
Mas se seguem as histórias da Tempestade 2.1, que eu vejo que vocês não fazem... Nas nossas redes sociais, normalmente, sim, já ouviram falar da Altina. Altina Ribeiro nasceu no dia 25 de setembro de 1960 em São Vicente de Raia, uma aldeia do nordeste de Portugal.
Eu não.
Eu também não
conhecia. Eu sou péssima em geografia.
Eu também. Mas aos nossos, como tu, Tony, emigrou para a França.
Um pouco mais velha.
Um pouco. Emigrou para a França com os seus pais e a sua irmã mais velha. Como podem imaginar... Foi um enorme choque cultural, sobretudo para as duas crianças, mas finalmente, com os anos passando, acabaram por adaptar-se à vida e à cultura francesa, o que, aliás, causou grandes discussões na família, porque os pais e as filhas já não tinham a mesma cultura, de uma certa forma. De carreira... Isso é para ti, João. De carreira, Altina trabalhou num gabinete de advogados, primeiro como secretária, só que depois entusiasmou-se pelos assuntos jurídicos, o que a levou a inscrever-se numa escola superior de direito, onde obteve o diploma de premier clerc, que é assistente de advocacia. É isso, não é?
Exatamente. Parece que a versão portuguesa de suíte, não?
Mas eu estava a pensar nisso.
A cada história parece para mim que estamos sempre...
É verdade, só que agora voltamos a literatura. Em 2005 publicou o seu primeiro livro em francês, Le Fado pour seul bagage. É uma história muito comovente na qual Altina conta a vida dela, a história da sua imigração. E em 2012 traduziu ela própria e publicou a tradução portuguesa em França e em 2013 em Portugal, sob o título de São Vicente a Paris. Já tinham ouvido falar de uma autora que traduz os seus próprios livros? Porque eu não.
Já nos falaste de muitos livros traduzidos em português, de francês em português, mas acho que a mesma pessoa que faz os próprios livros, acho que nunca disseste nada.
Eu acho isso muito impressionante. Acho isso incrível. Eu não conseguia.
Escrever um livro já é difícil.
É verdade.
Escrever ainda mais, mas escrever o mesmo em duas línguas ainda é impossível. Impossível.
Mas a Rodrigo Santos seria capaz de fazer.
Se calhar. Fez isso mais do que uma vez, porque após o sucesso do seu primeiro livro, uma outra filha de imigrantes, Alice Neto, contatou a Altina e pediu-lhe para que escrevesse a sua história, que é similar, mas diferente ao mesmo tempo. E assim, em 2010, foi publicada a biografia Alice au Pays de Salazar. O título dá vontade, não dá?
Ah, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, forcément.
Só que eu
j'aime
acho,
bien les jeux de mots, donc c'est là, il me plaît.
Eu acho que Salazar, o país de Salazar não é o mesmo do que o país das maravilhas, não é?
Não, acho nem perto.
E para o seu terceiro livro, Altina coescreveu uma outra biografia, consegue imaginar com quem? É alguém que já recebemos, um cantor que já recebemos na Tempestade 2.1.
Recebemos muitos.
É Dan...
Dan Tiberio?
Daniel dos Santos.
E no mês
de março de 2016 foi publicado o livro Trois Notes de Blues pour un Fado, outra vez uma história biográfica em relação com Portugal e cheia de emoção, mas desta vez com uma escrita mais parecida com uma entrevista e com uma relação muito puxada à música. E finalmente, porque Altina nunca para, publicou em 2017 na editora Chiado a biografia Dona Zezinha, que foi traduzido para português há pouco. É a história de, então, Dona Zezinha, que era professor durante a ditadura, mas que quis salvar o seu filho da guerra colonialista, fazendo-o emigrar ilegalmente para a França. É uma história muito interessante, porque mostra o ponto de vista das pessoas que foram salazaristas, o que não é o caso de muitos nunca ouvimos falar de uma mulher assim salazarista. Então, do ponto de vista histórico, literário e humano, é muito interessante. Mas agora, como sempre, deixo-vos com a mensagem desta autora que nunca pode parar de escrever histórias de vida.
Bonjour, Altina Ribeiro. Je suis née au Portugal en 1960 et je suis arrivée en France en 1969 à l'âge de 9 ans. J'écris sur l'immigration portugaise en France à travers des témoignages que les personnes me confient. J'ai commencé par écrire ma propre histoire dans le livre Le Fado pour seul bagage qui est sorti en 2005 et qui a été traduit en portugais sous le titre De San Vicente a Paris. Une dame qui a lu mon premier livre, qui a aimé la façon dont je racontais mon histoire, m'a demandé d'écrire la sienne. Elle s'appelle Alice et qu'elle a connu des moments douloureux durant la dictature. J'ai intitulé le livre Alice au pays de Salazar. J'ai également écrit la biographie de Danninger dos Santos. Donc ce livre, nous l'avons écrit à quatre mains. Et mon dernier livre, Dona Zezinha, c'est un livre qui est sorti en français en 2017 et qui vient de sortir en portugais. Donc c'est un livre sur l'éducation et l'enseignement au Portugal durant l'État nouveau, à travers l'histoire d'une institutrice qui m'a été raconté par son fils. Voilà, c'est une dame qui était très proche de la dictature, qui la soutenait. Mais quand son fils a eu l'âge d'accomplir son service militaire, elle a changé son fusil d'épaule et l'a envoyé clandestinement en France pour qu'il échappe au service militaire et à la guerre coloniale. Merci.
Muito obrigada, Altina. Espero que consegui dar-lhes vontade de descobrir a sua autora e os seus livros. João, já queres ler os seus livros?
Segunda-feira vou comprar.
Não hesites. E podem segui-la nas suas redes sociais ou ir visitar o seu site, é altina-ribeiro.com. E podes participar esta segunda-feira. Estamos a organizar um pequeno concurso para ganhar o livro Trois Notes de Blues pour un Fado, que é a biografia de Danninger, que a Altina escreveu com ele.
Ah, todo mundo. Vou comprar e vou esperar de jogar ao jogo concurso.
Boa ideia. Merci d'être avec nous sur Radio Alpha. J'espère que vous passez un bon samedi après-midi à la maison, sur la route, dans les transports. Merci d'être à nos côtés et merci à João Gonçalves, avocat spécialisé en droit du sport, qui est avec nous en studio. João, justement, tu me disais que tu écoutais Radio Alpha quand tu étais petit, enfin quand tu étais petit adolescent. Est-ce
c'était
que tu voulais...
C'était il y a un million d'années.
Est-ce que tu voulais...
C'était il y a un million d'années.
Non, pas du tout. Est-ce que tu voulais déjà être avocat ou pas? Quand t'écoutais Radio Alpha à l'époque.
Je pense que oui. Je pense que oui. Tu me demandes comment est née un peu ma vocation, c'est ça ta question?
Est-ce que justement quand tu étais ado, tu souhaitais déjà sur cette voie ou...
Oui, bah, moi, ma vocation elle est née assez tôt. Je pense qu'elle est née vers les 15-16 ans. Enfin, c'est très égocentrique de parler de soi comme ça, mais tu me poses la question.
Mais t'inquiète pas, c'est le but.
À 15-16 ans, il y a trois idées de métiers différents.
On est là pour connaître ta vie.
À 15-16 ans, donc au début, je me suis dit, je voyais ça un peu comme vraiment une profession un peu extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire, je voulais défendre la veuve et l'orphelin. Bon, je te cache pas qu'en grandissant, on doit aussi défendre celui qui font du mal à la veuve et l'orphelin. C'est comme ça, mais ça fait aussi partie de notre métier. Et un peu comme vous, alors vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais tu sais, on a un peu cette culture qui est un peu ancrée en nous lorsque voilà, nos parents, quand ils sont arrivés ici, ils avaient du mal à parler le français, ils avaient du mal à l'écrire, ils avaient du mal à... avoir un dialogue clair avec soit l'administration, soit avec leur employeur, etc. Et nous, en fait, dès très tôt, donc dès 15 ans, 16 ans, puisque nous, on était à l'école à ce moment-là, donc on savait lire normalement parfaitement le français, l'écrire aussi plutôt bien. Donc on devait pallier un peu à ces carences et on devait déjà aider un peu nos parents justement à pouvoir se débrouiller dans un pays dans lequel ils ne connaissaient pas très bien, dans lequel ils n'avaient pas forcément les bons réflexes, le bon vocabulaire. Donc on devait déjà les aider à ce moment-là. Et je pense que ma vocation en partie est né, s'est développé à la lumière de ça aussi, c'est-à-dire déjà aider tes parents, aider les amis qui pouvaient venir te voir lorsque effectivement eux n'avaient pas d'enfants adolescents ou des grands enfants pour pouvoir écrire un courrier. Et voilà, j'ai tout ça toujours baigné en moi, cette idée de pouvoir aider les gens. Et c'est pour ça que voilà, j'ai suivi ce cursus donc en droit et que je suis devenu avocat, entre autres à cause de ça. Et le fait que comme vous avez pu le constater et justement maintenant, c'est vrai que j'aime bien parler, j'aime bien m'exprimer et ça fait partie aussi du travail de s'exprimer. Je trouve que c'est génial, un peu comme vous le faites, et vous êtes aussi très fort dans ça, parce que je suis un peu spectateur de ce que vous faites depuis tout à l'heure, et je vous trouve géniaux. C'est-à-dire que voilà, de pouvoir donner des émotions, pouvoir donner de l'information que avec la voix. Je trouve que c'est voilà, il y a quelque chose d'un peu magique, et l'avocat voilà, il a aussi cette chose là qui est de voilà, d'essayer de convaincre avec ses mots, sa voix, ses attitudes, etc.
C'est un peu une vocation aussi, finalement.
Oui, c'est une vocation. C'est bien souvent dans des métiers qui sortent un peu de l'ordinaire comme ça, c'est une vocation, et pour moi voilà, ça l'était et ça l'est toujours.
Et pendant l'interview, on va en savoir plus justement sur ton métier, les règles à respecter lors des compétitions sportives, les sanctions aussi quand on ne les respecte pas. Mais avant, vous allez enrichir votre culture musicale avec Tony. Chaque semaine, vous découvrez la carrière d'un artiste. Et ce samedi, Tony, tu ne nous parles pas d'un seul artiste, tu nous parles d'un groupe star.
Bah, tu me mets la pression, hein.
Bah oui.
On retire votre culture. Oh là, j'ai peur.
Attention à ce que tu vas dire aussi. Hein.
Tremble.
J'ai peur, oui, j'ai tremblé.
Fais attention, c'est un de mes groupes préférés. Hein.
Ah bon ?
Ah oui.
Bon, bah ça va alors. Bah, si vous vous promenez dans les rues du Portugal et que vous croisez une personne avec des écouteurs, il y a de très grandes chances pour qu'elle soit en train d'écouter une chanson à succès de Dame.
Surtout si c'est moi.
Ouais, surtout. Mais ça marche aussi à Paris.
Oui, du coup.
Depuis quelques années, ce groupe est devenu une référence parmi tous les groupes présents sur la scène mugaise. Et si vous suivez Tempestade 2.1 assidûment, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a beaucoup, des artistes de grande qualité au Portugal. Dame, c'est l'acronyme de Deixe-me Ecoarte a Mente Amigo. Mais Dame, c'est surtout ça.
Quantas pedras trago eu no sapato? Quantas vou tirar logo à tardinha? A dar-te beijo. Lavo na canseira deste dia. E ai, só vale a pena se acabar. A dar-te beijo. Casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade. Chegar a casa, fazer o jantar e tirar-te a saudade. Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade. Chegar a casa, fazer o jantar e tirar-te a saudade. A dar-te beijo alinhado ao teu peito. A dar-te beijo alinhado ao teu peito. A descansar. Amor, eu estou à tua porta, vem ficar para sempre. Crianças no banco de trás e o pôr do sol em frente. E num abraço ser família. Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida. Amor, eu estou à tua porta, vem ficar para sempre. Crianças no banco de trás e o pôr do sol em frente. Ser abraço, ser família. Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida. E que o dia acabe assim. A dar-te beijo aninhado ao teu peito. A dar-te beijo aninhado ao
de um beijo alinhado ao teu peito. A dar-te um beijo alinhado ao teu peito.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha et vous faites bien. On vient d'écouter Kaz, qui est sans doute le plus gros succès de la carrière des Dames. C'est une reprise de Kubit que je vous avais déjà présentée pour le clin d'œil. Mais cette carrière, justement, des Dames, on en est où? Tout a commencé en 2008, quand Francisco Maria Pereira, Miguel Coimbra et Miguel Cristuving décident d'unir leurs forces et leur passion pour la musique. Les trois copains originaires de Lisbonne, qui parcourent aujourd'hui le pays entier, performent sur les plus grandes salles de concerts et de festivals.
Donc, Fail at San Martín à Couvillain.
T'insistes?
Santiago à Couvillain.
T'insistes sur celle-là?
Oui.
C'est la meilleure?
Ah oui.
Mais ils ont fait...
En tout cas, ils sont venus.
Ils font plein de festivals chaque année, ils font plein de concerts, mais ils ont bien ramé pour en arriver là. Avant d'arriver à Couvillain, je te le dis, avant que tu les écoutes là-bas, ils ont eu du boulot. Ils ont pris 6 ans à produire leur premier album, et ce temps, ils le doivent à leur inexpérience, forcément, à des portes fermées dans un milieu qui peine à les ouvrir, et à leur maigre réseau. Mais par contre, une fois...
Parce que j'étais pas là.
Bah, certainement ça. Mais par contre, une fois qu'ils se sont lancés, on peut bien vous écouter. 2014, premier album, double disque de platine, 22 semaines en tête des ventes nationales.
Je vais vous le reformuler.
Je vais vous reformuler pour que vous ayez bien conscience des phénomènes.
Vas-y, donne tout.
Pour leur premier album, trois amis ont été numéro 1 des ventes au Portugal pendant plus d'un tiers de l'année. C'est du jamais vu. Et c'était du jamais vu, oui, jusqu'à leur deuxième album, parce qu'ils ont remis ça un an plus tard.
Ils ont... Ça, c'est pas mal, parce que le deuxième album, c'est souvent le plus dur.
C'est la confirmation, bah, ils ont plus que confirmé.
Ah bah...
Ils ont raflé un nouveau double disque
c'est
de platine.
C'est mon groupe préféré, HV, Znanda, Tempreki. Pourquoi tu nous as pas passé ça, Tony?
Je suis désolé de ce qui s'est passé. Je peux pas la contrôler, Julie. Je la maîtrise pas. Mais tout ça, c'est presque anecdotique quand on voit ce qu'il y a eu derrière. Parce qu'en mars, Dame se sont alliés à Los Romeros et nous ont sorti un des titres de l'été. C'est pas Preso Certo. Je vous rassure.
C'est mieux.
C'est Walkman.
Loucamente eu te procurei. Te procurei e não te encontrei. Adormeci, tive sonho a que me estavas a beijar. É uma história que tu sabes, que para sempre eu vou te amar. É para sempre eu vou te amar. É que eu vou te amar.
Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora. Nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora. Poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora.
Quando te conheci, eu olhei para ti. Estavas tão linda. E agora não dá mais para esconder o que eu sinto por ti. Ai, é amor. Eu quero é dizer-te que sim, o que eu sinto. Só de mim, passarinho disse-me que sim. Às 4 da madrugada esperas por mim ou não? Eu ando louco sem saber se ainda és minha ou não. Meu coração anda.
anda para aí, ninguém o prende. E a liberdade não me deu ninguém mais quente. Será que és tu que ainda me tens e ainda me sentes? Ainda me sentes? Meu coração anda para aí, ninguém o prende. E a liberdade não me deu ninguém mais quente. Será que és tu que ainda me tens e ainda me sentes? Ainda me sentes? Oh meu amor, pudesse te abraçar agora.
Entre Kaz et Wokament, on est sur deux registres bien différents, et c'est en partie ce qui fait le charme des chansons de Dame. C'est un charme qui n'est pas prêt d'arrêter d'opérer, puisque le trio a sorti un EP hier, intitulé « 15 sons et je voulais t'as un pull to gage volume 1 ». Et on parle là d'un mini-album de 6 chansons, certaines déjà connues, dont Wokament justement. Et dans l'eau, il y en a eu une inédite qui fait déjà l'unanimité en 24 heures à peine, c'est Mai. Je vous en dis pas plus, le mieux c'est de l'écouter.
Et on ne va pas passer à côté de ça, on va écouter cette nouveauté dans quelques secondes. Restez bien avec nous, juste après l'interview avec l'avocat Jean Gonsarge, spécialiste en droit du sport. En attendant, voici Mai.
Mãe, sei que digo que te amo muito menos do que tu mereces. E que hoje em dia me dás colo muito menos do que queres. Mas olha, eu vou passar aí em casa, passear os olhos nas fotografias que guardas na sala, levar-te um girassol que vais pôr no vaso da entrada, para te compensar do meu quarto vazio, vazio. Mãe, eu sei que não há viagem que tu não peças a Deus que eu chegue bem. Mãe, eu vou viver além da margem, responder à tua mensagem ainda hoje. Eu ando longe, e mesmo longe, ando debaixo da tua asa. Mãe, é só fechar os olhos para sentir que estás aqui comigo. Eu continuo mesmo puto a tentar ser mais crescido. E teu neto é um pirata como eu era. Quando levo à escola lembro quando eras tu que me deixavas. Tu és a mão, amparo, o vento e a chuva na minha cara. E as canções nunca vão tirar as saudades de ti. Mãe, eu sei que não há viagem que tu não peças a Deus que eu chegue bem. Ave Maria, por cada dia e cada noite mal dormida, por me ensinares que é no amor que eu encontro respostas para a vida. Nem sempre fui como tu querias, eu sei. Eu sei que não há viagem que tu não peças a Deus que eu chegue bem. Mãe, eu vou viver além da margem, responder à tua mensagem ainda hoje. Longe, e mesmo longe, ando debaixo da tua asa.
Rádio Alfa.
samedi, à nos côtés, Joan Gonsauge, avocat spécialisé en droit du sport et cofondateur du cabinet BGSL. Joan, merci d'être avec nous. Alors, avant de parler de ton rôle et des certains dérapages qui ont lieu dernièrement dans les stades de foot, tu nous disais justement avant ce qui t'avait donné envie de devenir avocat. Donc, le cercle familial, l'entraide.
Exactement, entre autres, mais oui.
Entre autres. Est-ce que tu as des conseils ou des recommandations pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de suivre cette voie et de devenir avocat, puisqu'on sait que c'est pas facile. Mentalement aussi, c'est compliqué. Est-ce que tu as des conseils?
Oui, je peux donner 2-3 conseils, mais de nouveau, hein, de manière avec beaucoup d'humilité. Les conseils, c'est d'abord, alors, bien vérifier que c'est la voie qu'on veut choisir. Parce qu'une fois qu'on a choisi cette voie, c'est vrai qu'il faut s'investir à fond, il faut y aller à 100%. Donc, on peut, par exemple, aller à la fac, voire assister à certains cours. Donc, déjà, ça donne un peu une idée de ce que peut être le droit. On peut aussi, parce que ce sont en principe public, sauf exception, il peut y avoir des audiences à huis clos, mais en principe les audiences sont publiques, donc on peut aller assister à des audiences pour voir effectivement comment ça se passe au quotidien et dans les faits. Et je pense que se faire cette première petite expérience, ça peut être utile pour voir si vraiment c'est quelque chose qu'on veut faire et toucher, effleurer un peu du doigt ce que peut être cette profession.
Ça nous permet déjà d'avoir une vision du métier.
Exactement.
Donc voilà la recommandation de Joan. Alors toi, tu es avocat, donc spécialisé en droit du sport, comme je le disais juste avant. Qu'est-ce que c'est précisément un avocat spécialiste de cette branche-là?
Alors, pour tout te dire, avant d'être avocat en droit du sport, on est avant tout avocat. Voilà, on est avocat. Moi, j'ai commencé ma carrière, de nouveau, hein, c'est très égocentrique, je trouve, de parler de soi, mais j'ai commencé ma carrière, alors je vous disais tout à l'heure un peu sur le ton de l'humour, mais voilà, je suis un vieux, ou alors, disons-le un peu mieux, un avocat qui a de l'expérience. J'ai débuté en 2005, donc il y a déjà un petit moment. J'ai commencé par faire du droit du travail, du droit de la construction. Ensuite, je me suis mis à mon compte, donc j'ai fait du droit pénal. J'ai continué dans le droit du travail, de droit commercial et du droit de la famille. Donc tout ça pour te dire que en fait, le droit du sport est né assez tard. Alors on s'est lancé dans cette activité avec mon associé. D'ailleurs, je lui fais un petit clin d'œil, Yazid Ben Meriem. Donc on a fondé le cabinet BGSL. On l'a fondé il y a de mémoire 2-3 ans, mais on travaillait déjà sur ces sujets-là depuis 5 ans. On a eu quelques dossiers depuis 5 ans et on s'est dit il est temps de se structurer et on a effectivement créé ce qu'on appelle une ARPI, c'est une association d'avocats, donc lui et moi. Puis on s'est lancé de manière plus intensive dans cette manière qu'est le droit du sport. Tu me disais tout à l'heure, alors ce que je te disais, l'avocat en droit du sport, c'est avant tout un avocat. Parce que les sportifs, les associations, n'importe qui tourne autour du sport est en réalité injusticiable. On le voit souvent, les sportifs, parfois, tu sais, on entend des faits divers, alors et ils ont conduit en état d'ivresse, ils ont violenté quelqu'un, parfois même plus que ça, on a entendu ces derniers temps, il y a eu des histoires de viol autour de sportifs. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être défendre les sportifs au droit pénal, ça peut être aussi parce que les sportifs sont des justiciables comme tout le monde, donc des interventions en droit de la famille, s'ils sont séparés, le divorce, etc. Et pour être un tout petit peu plus précis sur ce qui touche vraiment au droit du sport, on a un panel de prestations qui est assez large. On intervient auprès des sportifs pour voir leur contrat de travail, pour les conseiller sur leur droit à l'image, parce que souvent dans le contrat de travail du sportif, qui a un contrat à durée déterminée, tu vois, il n'y a pas de CDI chez les sportifs. C'est des contrats à durée déterminée de 3 à 5 ans. En principe, ils peuvent être plus courts, mais en principe, c'est 3 à 5 ans. Et on les donc paye autour de leur contrat de travail. Et leur contrat de travail contient aussi une partie de droit à l'image. C'est-à-dire qu'ils ont des obligations, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir un comportement exemplaire. Ils peuvent intervenir pour les sponsors de l'équipe. Donc tout ça est prévu dans leur contrat de travail. On peut aussi leur créer une société qui va venir loger leur droit à l'image. On intervient aussi. Alors je peux faire deux heures hein, sur les
avec ce qu'on plaisir, fait avec les avec
sur ce qu'on fait autour du droit du sport. On intervient aussi un petit peu en amont. En fait, tu sais, avec les parents des sportifs. D'accord. Aujourd'hui, et je vous apprends rien, aujourd'hui, ce qu'on appelle un peu les pépites, ou en tout cas les sportifs qui arrivent à éclore au très haut niveau, ils sont souvent approchés par les clubs très tôt. Donc ça commence dès l'âge de 12-13 ans. C'est-à-dire dès l'âge de 12-13 ans, par exemple, dans le foot, il y a un contrat qui s'appelle un accord de non-sollicitation. On appelle ça un ANS. Je suis un peu technique, mais ça vous permet un peu de voir ce que ça peut être. Donc, un accord de non-sollicitation qui est signé dès le tout jeune âge, 12-13 ans, par le mineur, avec ses parents, parce qu'à ce moment-là, les parents sont les représentants légaux mineur, qui va engager le mineur dès cet âge-là.
Ça veut dire qu'il est engagé dans un club spécifique, c'est ça ?
Il a l'accord de non-sollicitation l'oblige à signer un contrat à l'âge de 16 ans, avec l'équipe du centre de formation dans lequel il est.
En gros, c'est un peu de l'exclusivité.
C'est exactement ça. Tu as le mot parfait, c'est exactement ça. L'accord de non-sollicitation, c'est un accord, entre guillemets, d'exclusivité. Alors, lorsqu'on entend le nom du contrat, tu vois, ça nous fait penser à ça. Donc, non-sollicitation, c'est-à-dire que tous les autres clubs ne peuvent pas venir solliciter ce mineur-là pour la signature de son premier contrat, qui sera un contrat d'aspirant. Tu vois. Et ensuite, un contrat... professionnel lorsqu'il aura 18 ans, même si le contrat professionnel peut se signer.
Donc vous aidez les parents à comprendre ce genre d'accord.
Exactement. Ce que je te disais tout à l'heure, ce que Léa et à vous, et aux auditeurs, c'est que effectivement, tu vois, on a un peu ce travail. On a deux casquettes. On a une casquette qui est celle du conseil, c'est-à-dire que voilà, on doit guider un petit peu le justiciable, en l'occurrence les parents, pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de leur signature. Une fois qu'ils signent un document avec leur enfant, ça les oblige et ils ont un certain nombre d'obligations. Donc nous, pour les mettre en garde un peu, pour leur dire faites attention, pour leur expliquer, on est un peu un guide en fait. Tu vois, comme lorsque tu vas dans un musée. Il est préférable d'être accompagné d'un guide qui va te dire regardez, vous pouvez passer plus de temps face à cette œuvre-là parce qu'elle est intéressante. Ici, vous pouvez passer un peu plus rapidement. Nous, notre travail, à ce moment-là, c'est un peu celui-là. C'est-à-dire qu'on va dire aux parents voilà, faites attention à ça. Ça, c'est un truc classique, etc. Et on va leur dire à quoi ils s'engagent et leurs obligations après la signature de ce contrat-là.
Et quelle est la différence alors avec un mandataire sportif ? Est-ce qu'il y a une différence ?
Non, il n'y a pas de différence. En l'occurrence, Yazid et moi, on est avocats mandataires sportifs.
D'accord.
C'est-à-dire, très honnêtement, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut une déclaration préalable auprès de notre ordre. Donc, nous, on s'est déclaré. Donc, on le fait d'ailleurs au sein de notre site, en tant qu'avocat mandataire sportif.
D'accord, okay.
Mais ce que je te disais tout à l'heure, et c'est ça qui est plutôt agréable, c'est que l'avocat en droit du sport, c'est un avocat. C'est un avocat avec... Et nous, voilà, exactement. Et nous, avec Yazid, c'est un peu ça. C'est-à-dire que voilà, moi, j'ai fait du droit du travail, j'ai fait du droit de la famille. On s'est formé en droit du sport, c'est-à-dire qu'on est retourné, alors par un peu avec ce leitmotiv, à mon vieil âge, j'ai dû retourner sur les bancs de la fac. Donc on s'est formé. Donc moi, j'ai fait un diplôme universitaire en droit du sport pour justement savoir de ce qu'on parle.
Avoir les bases, bien sûr.
C'est très important.
Oui, c'est important.
Et Yazid, lui, a fait un master en droit du sport.
D'accord.
Du coup, voilà, on s'est formé, on a fait les choses de manière carrée. Parce que lorsqu'on fournit une prestation, on veut que ce soit une prestation de qualité et du coup on s'est formé. Mais pour te dire que pour être un bon avocat, je pense, de nouveau, de manière en faisant preuve d'humilité, pour être un bon avocat en droit du sport, il faut être un bon avocat tout court.
C'est la base de ce qui vient après.
Exactement, et pour avoir un spectre suffisamment large pour pouvoir aider son client dans n'importe quelle situation. Mais après, il faut avoir aussi cette humilité de se dire dans des rubriques un petit peu spéciales, de se dire, voilà, là, je suis incapable d'aider mon client, je vais faire appel à tel ou tel spécialiste qui pourra l'aider peut-être mieux que moi à ce moment-là. Mais c'est aussi notre rôle de l'accompagner dans ces moments-là pour le guider vers la bonne personne.
Et dans votre cabinet, quel est le contentieux qui revient le plus souvent
Nous, on n'a pas de contentieux récurrent, ce que je te disais. Donc, on fait du conseil, on fait du contentieux.
Il y a les deux.
Donc, qu'on fait du conseil, ce que je te disais, sur la relecture de contrats, sur la création de sociétés, sur des questions fiscales aussi à notre niveau. Lorsqu'elles deviennent trop compliquées, on fait appel à un avocat fiscaliste, sera beaucoup plus pointu sur ça. Et en termes de contentieux, on a un spectre assez large, parce qu'on assiste des petits clubs. C'est-à-dire que sans donner de nom, parce que tu sais, on est tenu au secret professionnel, mais on a pu aider des clubs lorsqu'il y a des difficultés, par exemple sur une contestation de points pour pouvoir monter en division supérieure. Donc voilà, on fait une demande pour contester la montée des points. Lorsqu'il y a des actes de violence, parfois au sein de l'enceinte sportive dans lequel a pu avoir lieu un événement sportif, on peut intervenir aussi à ce moment-là. On intervient pour des dirigeants de fédération aussi.
Et justement, je rebondis, est-ce qu'il n'y a pas un sport où il y a un peu plus de litiges? C'est lui, pourquoi le foot?
écoute, voilà, exactement. Alors,
pour quelle raison le foot?
Parce que c'est... Pareil, moi je ne donne, je suis pas là pour donner des leçons, etc. Mais par la force des choses, le foot est un sport très populaire. C'est le sport le plus populaire au monde, en Europe. C'est le sport le plus populaire en France. C'est le sport le plus populaire. C'est un sport qui génère beaucoup de passion. Et c'est un sport aussi qui génère beaucoup d'argent. Voilà.
L'argent y est pour quelque chose.
L'argent y est un peu pour quelque chose. C'est pour ça que, alors, pas tous, malheureusement, et là, en te disant ça, je prêche un peu pour ma propre paroisse, mais c'est vrai que tous les sportifs ne peuvent malheureusement pas vivre de leur sport. Nous, on a déjà, on a eu l'occasion d'assister sur tout ce qui était recherche de sponsors, un sportif qui participait aux derniers Jeux Olympiques, et pour lui, c'était très difficile, tu vois. Et pourtant, c'était les Jeux Olympiques. Donc voilà, il devait, pour pouvoir exercer son sport de manière confortable, il devait faire appel à une salle de sport dans laquelle il pouvait faire son sport. Il devait faire appel à des ostéos, à des kinés, à des préparateurs physiques, à des diététiciens pour avoir une bonne hygiène alimentaire. Et tout ça coûte énormément d'argent. Et malheureusement, parfois, ils sont pas forcément suffisamment aidés par leur fédération. Et c'est un peu compliqué pour eux pour justement pouvoir exercer leur sport de la manière la plus confortable possible. Et pour les footballeurs, parce que c'est la question que tu me posais, eux, effectivement, ils ont une assise financière qui est un peu plus confortable, et c'est un euphémisme. Et du coup, ils peuvent être encadrés et mieux encadrés. Et lorsque, et c'est, tu vois, c'est tout aussi le cercle familial qui est important, lorsque à côté d'eux, ils ont les bonnes personnes qui leur donnent les bons conseils, normalement, et c'est là où je te disais, où je prêche un peu pour ma paroisse, mais normalement, ils vont faire appel à un avocat qui va venir un peu chapeauter l'ensemble de leurs activités. Contrat de travail, investissement, création de société, tout ce qui touche au droit fiscal, s'ils partent à l'étranger, pour que tout soit en règle. Ouais. Et parfois aussi, les relations avec les agents. Parce que nous, alors je ne sais pas si vous savez ça, et peut-être la question lorsque tu me posais sur avocat mandataire sportif, c'est-à-dire que nous ne sommes pas agents. Nous ne faisons pas ce qu'on appelle de l'intermédiation. C'est-à-dire qu'on ne présente pas un club à un joueur.
Il n'y a pas de représentation.
Il n'y a pas de. Alors, il n'y a pas d'intermédiation. C'est un tout petit peu différent. Et c'est vrai que pour les juristes, les termes, tu sais, les termes juridiques sont très importants. Donc, c'est de l'intermédiation. C'est-à-dire, en fait, la présentation. Présentation d'un club à un joueur ou vice-versa. Par contre, on peut intervenir juste après. Une fois que cette présentation a eu lieu, ou cette intermédiation, nous, on peut intervenir, ce que tu disais très justement, dans de la représentation. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut représenter notre client, le sportif, soit à côté de l'agent, soit sans agent, auprès du club pour négocier son contrat avec toute une série de clauses. Les clauses, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais il y a plein de clauses en fait. Dans le contrat, c'est la loi des parties. C'est-à-dire que dans le contrat, tu mets ce que tu veux. Il y a certains clubs qui, par exemple, mettent comme obligation à leurs sportifs d'aller saluer les spectateurs. Ils en ont l'obligation. Sinon, il y a une certaine somme de leur salaire mensuel qui n'est pas payée.
D'accord.
Ils doivent se comporter correctement de leur sport. Ils doivent se comporter correctement sur les réseaux sociaux.
Une image à tenir qui est importante.
Il y a énormément, c'est très important. Les clubs, une bonne partie de leur finance est faite par les sponsors. Donc les sponsors, eux, ils ont une image de marque et ils veulent pas que les sportifs viennent entacher cette image de marque. Et c'est pour ça que les sportifs doivent être irréprochables. Et normalement, ils ont des gens qui les accompagnent sur les réseaux sociaux. Pareil. S'ils sont bien conseillés, normalement, ils ont des gens qui les accompagnent sur les réseaux sociaux. Ils ont des gens que nous, parfois, ça nous est déjà arrivé de le faire. On peut, dans une situation un petit peu de crise, on peut prendre un peu la main et aider le sportif. On ne le fait jamais à sa place, mais on le fait dans un dialogue raisonné avec lui. On peut aider le sportif à rédiger un communiqué s'il a fait des choses qui peuvent poser question.
Moi, j'ai une petite question. Comment vous trouvez les clients? Est-ce que c'est vous qui allez vers eux ou est-ce que c'est eux qui viennent directement vers vous?
Non, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que, et ça fait partie un peu de nos obligations en tant qu'avocat. C'est une scœur sur le fameux permis de conduire et sur le permis de conduire de l'avocat. Il y a beaucoup d'obligations. C'est une profession qui est très encadrée. Et par exemple, pour être très précis sur ta question, on ne fait pas de démarchage. C'est interdit. On ne peut pas faire de démarchage. Mmh. On le fait, et pour être très honnête avec vous, on le fait un peu comme là. Moi, j'ai répondu à l'invitation de Léa et je suis là avec plaisir. Depuis tout à l'heure, je passe un très bon moment avec vous. Et on le fait comme ça, en fait, en parlant de nous. Ça nous permet, voilà, d'étendre un peu notre réseau, de faire parler de nous, que les gens puissent nous connaître. Nous, on travaille beaucoup sur le bouche à oreille. C'est-à-dire que lorsque un client est satisfait, alors, oui et non. Tu vois, c'est ça qui est un peu marrant. C'est-à-dire, lorsqu'un client est satisfait, parfois il va le dire à son copain ou à son copain sportif ou à son collègue de vestiaire. Et parfois il va se dire, ah non, mon avocat. Alors, de nouveau, vous allez dire le fait de dire que je le fait de trop répéter le mot humilité, vous allez finir par croire que je ne le suis pas.
C'est vrai que tu as répété beaucoup.
Je le répète beaucoup. Mais non, mais c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Mais parfois, c'est un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que si l'avocat est plutôt bon et donne plutôt de bons conseils, il va se dire non, mais de manière un peu égoïste, je vais le garder pour moi, celui-là. Voilà, d'accord. Moi, il me va très bien. Et je vais pas forcément en parler parce que voilà, je veux pas que forcément il aille aider mes copains parce que c'est
bien sûr.
Le football. Alors moi, j'adore les footballeurs.
Très concurrentiel.
Mais le football, c'est très concurrentiel. Et moi, je répète toujours un peu, alors ça les fait un peu rire, mais je répète toujours que le football, c'est un sport collectif qui se joue de manière individuelle.
Et très peu d'amitié en plus.
Et c'est un peu comme ça.
Comme tu parles de football, une petite accroche aussi avec l'actualité. Dernièrement, on a entendu des chants homophobes dans les stades de foot, des chants qui deviennent assez récurrents. Par exemple, fin septembre, des chants homophobes ont retenti dans le Parc des Princes pendant de longues minutes lors du match PSG-OM. Alors, quelles sont les sanctions dans ce cas-là? Et est-ce qu'elles sont finalement efficaces?
Écoute, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je vais essayer, alors sans rentrer dans des termes juridiques très compliqués, mais je vais essayer de répondre de manière simple à cette question qui est quand même. Nous, on a déjà eu à assister des clubs sur des chants lorsqu'on a entendu au cours d'un match des chants racistes, des chants xénophobes. Et pour t'expliquer un peu comment ça marche, l'organisateur d'un match de foot, ce qu'on appelle l'équipe visitée, elle a ce qu'on appelle, et c'est un terme un peu technique, mais c'est intéressant, elle a une obligation de résultat. C'est-à-dire D'accord. qu'on ne doit pas prouver sa responsabilité, que ce soit dans les champs xénophobes ou, pour être un tout petit peu plus précis sur ta question de champs homophobes, elle n'a pas, on n'a pas à justifier de l'existence de sa responsabilité dans ça. C'est une obligation objective, c'est le terme juridique, objective ou de résultat. Le simple fait que ça existe engage la responsabilité du club. C'est-à-dire que le club sera sanctionné punis du seul fait de l'existence de ces actes, en l'occurrence, ces chants homophobes.
Et qui porte plainte, du coup, qui se manifeste.
Il y a une... C'est l'arbitre, par exemple, d'accord, ou alors n'importe qui peut effectivement se... Et les commissions se saisissent. Mm-hmm. Il y a des commissions qui se saisissent et ensuite le club va devoir expliquer comment on en est arrivé à ce point. Donc il y a des commissions de discipline d'appel et au final le tribunal administratif. Pour reprendre un peu sur ce que tu disais et pour un peu atténuer cette obligation de résultat, le club sera mm-hmm. tenu responsable parce que d'accord. voilà, il est censé être responsable des désordres qui peuvent arriver mm-hmm. au cours des événements sportifs qu'il organise. Par contre, une fois qu'il sera devant cette commission de discipline, il pourra, et ça va jouer sur la sanction, démontrer que avant, pendant et après l'événement, il n'avait pas la main mmh. sur ça, en fait. Donc, s'il arrive à mettre en avant le fait que lui, il a bien fait son travail, c'est-à-dire, par exemple, s'il y a des banderoles, des banderoles homophobes, mmh. s'il y a eu un contrôle en amont, des fouilles, etc., et si malheureusement des banderoles sont rentrées, on peut difficilement sanctionner durement le club. Mmh. Et pareil, d'accord. pendant, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il y a un speaker, et si le speaker dit au public, s'il vous plaît, cessez de c'est les chants homophobes, pareil, c'est-à-dire que le club aura réagi à ce moment-là pour essayer de faire cesser le désordre. Et après, si le club arrive à démontrer au cours de la commission de discipline, s'il en a suffisamment le temps, qu'il a pu corriger les défaillances qui ont pu être les siennes à ce moment-là, pareil, la sanction sera réduite.
D'accord.
Pareil, j'aime pas trop les chiffres, mais pour te donner une idée de ce qui a pu être les chants homophobes ou les difficultés liées à l'homophobie dans les stades, l'année dernière, il y a eu plus de procédures en commission de discipline de la LFP. La LFP, en fait, elle est chargée de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de la Coupe de la Ligue. Donc, il y a 800 matchs à peu près. Il y a eu 200 événements qui ont donné lieu à des poursuites. C'est énorme.
Et ces poursuites-là, justement, ce sont les mêmes, que ce soit pour les chants homophobes, les chants racistes, xénophobes, c'est les mêmes sanctions.
C'est les mêmes sanctions.
Okay.
C'est-à-dire qu'on d'ordre.
D'accord.
On parle de désordre, c'est considéré comme un désordre et du coup les sanctions sont exactes. Pour te donner une idée des sanctions, ça peut aller du simple avertissement. Malheureusement, l'année dernière, sur les 200 procédures qui ont pu être lancées, plus de la moitié, je crois même les trois quarts, ont donné lieu à un simple avertissement.
Donc c'est un peu light.
C'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu t'inquiétais de le fait que ça perdure depuis des années, ces difficultés avec les chants homophobes. Et je pense que tu as raison. Et l'année dernière le démontre. Mais les sanctions, elles vont donc de l'avertissement à l'amende, en passant par des suspensions de tribunes, des matchs à huis clos, alors des fermetures partielles du stade et le petit clin d'œil sur ta question, tu le disais tout à l'heure sur le match et Marseille, pour le rapprocher un peu de l'actualité, il y a eu quatre joueurs, sans les nommer, quatre joueurs de Paris qui ont été poursuivis justement parce qu'ils ont repris les chants homophobes. Ils ont été condamnés à un match un match de sursis. Ouais. C'est-à-dire que le sursis, pour que tout le monde puisse le comprendre, le sursis, ça veut dire qu'on n'exécute pas la peine. Et pareil pour les auditeurs qui vont regarder le match dans une heure. Alors je sais plus contre qui joue Paris.
Strasbourg. 17h qu'on envoie.
Voilà. Donc
Tony sait toujours tout.
Parfait. Heureusement que Tony est là. Dans une heure, si vous regardez bien les tribunes du Parc des Princes, il y aura une tribune qui sera vide. C'est la tribune Auteuil.
Très bien.
Là, par exemple, c'est une sanction qui est liée à ça. C'est-à-dire que le club a une obligation de fermer cette tribune-là et cette tribune sera vide. Alors c'est pas une sanction avec sursis. C'est une sanction, en l'occurrence, qu'on appelle une sanction ferme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sursis.
Comme ça dépend, merci d'être avec nous. L'émission touche à sa fin. Mais avant, Julie a une question.
Et bien, cette fois-ci, c'est à Edouard qui avait une très bonne question à poser.
J'ai une question pour toi, Joao. Oui. En tant qu'avocat, par rapport aux actualités qu'on a vues sur les conflits israélo-palestiniens, est-ce que tu conçois communication
Alors sans rentrer sur l'exemple précis du conflit israélo-palestinien que je mets un peu de côté parce que c'est un sujet qui est extrêmement sensible, sur ta question et de manière sur la communication, bien sûr qu'on intervient avec le sportif, à côté du sportif, mais aussi des associations. On intervient aussi avec des associations, des clubs sportifs, mais c'est vrai que notre activité sur la communication aujourd'hui, elle est essentiellement autour des sportifs parce que ils ont ce que je disais tout à l'heure, par exemple sur leur contrat de travail, il y a une partie, il y a une annexe qui est réservée au droit à l'image, c'est-à-dire qu'ils ont des obligations et des devoirs et des droits, parce qu'ils sont aussi rémunérés pour ça, mais aussi avec par exemple leur équipementier. Donc c'est très important, c'est-à-dire qu'effectivement on fait attention, on leur dit. Après, tu sais, on ne peut pas se mettre à leur place. Et le client, on n'est pas là pour prendre des décisions. On est là pour l'éclairer du mieux possible. On est là pour le mettre en garde. Après, il est libre de faire ce qu'il veut. Le travail, c'est en amont, effectivement, de le conseiller, de lui dire « fais attention à ça » ou alors « n'oublie pas que ton équipementier, dans le contrat que tu as avec ton équipementier, tu dois faire 3 postes par mois. Là, t'es un peu en déficit. Il faut que tu y ailles. » Pour suivre, par exemple, sur l'équipementier, parce que ça, c'est essentiellement de l'image et de la communication, parce que l'équipementier, lui, ce qu'il veut, c'est avoir un sportif qui puisse défendre sa marque, avoir plutôt une bonne image de marque avec ce sportif-là. Donc, on lui dit également, regarde, on vérifie en fait les aspects financiers de son contrat d'équipementier. C'est-à-dire que certains footballeurs, s'ils font 60% des matchs avec les... il y a de l'argent qu'ils vont toucher de leur équipementier. S'ils arrivent à prendre 10 buts ou 15 buts ou 20 buts pour les attaquants, ils vont avoir aussi une prestation financière. Et nous, on est là aussi pour surveiller ça et pour lui dire, voilà, tu vas être payé pour ça.
Et pour finir, juste avant de se quitter, une petite question. Une ouverture sur les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu à Paris. Est-ce qu'il y a des prochains sujets de polémique ou autres qui vont émerger là? Est-ce que tu as déjà une vision, justement?
Écoute, malheureusement, et comme toujours, il y aura toujours des polémiques.
Pour l'instant, rien à prédire.
Pour l'instant, non. Pour là, mais voilà, il n'est pas impossible qu'il y ait des polémiques. C'est aussi ce qui fait le piment de ces éléments-là.
Très bien. Eh bien, merci en tout cas, Jérôme, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Termstadt 2.1, d'avoir répondu à nos questions et sur pas mal de sujets également.
Elles sont importantes en plus, celles-là.
Ah ouais, exactement.
C'est très merci, important. Merci à vous surtout, j'ai passé un super moment. Et voilà, et bravo à vous parce que vous êtes vraiment très fort.
Merci pour ces mots. Et avant de se quitter, les bons plans, Julie.
Oui, alors notre ancienne invitée Anna Daniel avec Endona Charity organise l'Octobre Rose et AVC, donc prévenir et agir, le 31 octobre de 14h30 à 16h30 à Saint-Ouen, avec des distributions de roses et de sourires gratuites. Donc n'hésitez pas à y aller, on vous partagera ça sur nos réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'événements, donc n'hésitez pas à consulter l'agenda LUSO de Cap Magellan, par exemple la dernière de la pièce Jardin Nocturne au théâtre Clavel le 6 octobre, de nombreuses expositions et le Salon International d'Art Contemporain ce week-end au Carrousel du Louvre. On pense y passer, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous nous voyez. Et enfin, participez lundi à notre concours. Et il y a aussi 2 concours sur le compte de Cap Magellan qui arrivent, donc allez vous faire
vous
des cadeaux.
Gâtés.
Vraiment, faites-vous des cadeaux tout seul.
Et oui, n'hésitez pas à participer à nos concours. Je vous souhaite un très très bon week-end. Merci beaucoup à João Gonçalves, avocat spécialisé en droit du sport et co-fondateur du cabinet, celle d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis bon courage pour la suite.
Merci beaucoup Léa.
Merci à tous et un très très bon week-end. L'équipe, reposez-vous bien aussi.
Ouais. Merci toi aussi.
Il faut.
Bon week-end et bonne semaine à tous.
À tous, à la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Mas ninguém para falar. Os olhares que julgam sem saber. Dor que eu carrego e que acaba por prender. O silêncio que toma conta de mim. Reparem que eu ainda vivo aqui. Sai ao caminho para depois me perder. Finto tempo na pressa.
A minha casa és tu.